RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
Et à la une, 44 civils tués vendredi au Niger. Les autorités parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel. Vous entendrez le coordonnateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Trop c'est trop, dit-il, il faut arrêter cette descente aux enfers. Des persécutions et des ciblages, c'est ce que dénonce le parti d'opposition béninois. Des plaintes ont été déposées contre des fonctionnaires de police, mais également des élus locaux. Le parti, les démocrates, des emplois en danger, des journalistes contraints au silence et une précarisation en vue. Après l'annonce de Washington de couper les financements des médias publics américains à l'étranger, quelques témoignages anonymes d'employés de Voice of America dans ce journal. Amour, famille, santé, football, fête et argent, autant d'indicateurs qui font le bonheur des Ivoiriens, alors qu'un classement de l'université d'Oxford place le pays parmi le plus heureux en Afrique de l'Ouest. Vous entendrez un chercheur qui travaille sur un indice ivoirien du bien-être. Et puis la Tunisie et le film du réalisateur Mehdi Barsaoui pour refermer ce journal. Dans Aïcha, il brosse le portrait d'une jeune fille qui saisit l'occasion d'une seconde vie après un accident. Ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis. Leurs auteurs seront traqués. Réaction des autorités nigériennes après l'annonce de la mort de 44 civils tués dans une attaque djihadiste vendredi dans le nord-ouest du pays, dans le village de Fambita, où les assaillants ont encerclé la mosquée au moment de la prière de l'après-midi avant d'ouvrir le feu. Un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, indique le ministère de l'Intérieur. Ce dimanche, je vous propose d'écouter la réaction d'Amadou Haruna Maïga, coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Il appelle tout le monde, des autorités à l'armée, en passant par les habitants, à tout faire pour lutter contre ces attaques. Amadou Haruna Maïga lors d'un point presse hier à Niamey.
À 14h, les gens étaient dans la mosquée pour la prière du Jumma. Ils sont venus ouvrir le feu. 44 morts et des blessés légers et des blessés graves. Mais je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut arrêter cette descente aux enfers. Le bilan est lourd. Et comme je le dis souvent, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Parce que nous civils, nous populations, en dehors de vos micros, qu'est-ce que nous pouvons faire pour traquer ces bandits-là qui tous les jours endeuillent les populations? Il faut que l'État, dans toute sa grandeur, prennent ses responsabilités, toutes ses responsabilités. On ne dit pas que l'État ne travaille pas. On ne dit pas que les FDS ne travaillent pas. Nous apportons notre soutien aux FDS. La guerre, là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour nous amener à finir avec. En tout cas, pour soulager la souffrance des populations.
Amadou Haruna Maïga, coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Autre attaque imputée à des terroristes, cette fois chez le voisin malien dans le nord du pays, entre Ansongo et Menaka, deux combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad tués dans l'explosion d'une mine alors qu'ils assuraient la sécurisation d'un convoi de vivres. Le MSA allié des FAMA, les forces armées maliennes, d'autres combattants ont été blessés lors de l'explosion. Alors qu'au Burkina Faso, cette fois, les autorités dénoncent une campagne de diabolisation et de dénigrement du gouvernement après la propagation de nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos présentées comme des massacres de civils par des supplétifs de l'armée. Ouagadougou dénonce la persistance d'individus mal intentionnés qui s'activent au montage de vidéos mensongères faisant croire à des massacres ethniques. Objectif, selon les autorités, déclencher des affrontements intercommunautaire. Plusieurs plaintes pour atteinte à la liberté et aux droits civiques. Au Bénin, le parti Les Démocrates pointe du doigt des fonctionnaires de police, mais aussi des élus locaux. La formation d'opposition dit s'être vue refuser plusieurs rassemblements dans plusieurs villes du pays ou encore d'avoir subi la dispersion de ses partisans lors de certaines autres réunions. Des audiences auront lieu dès la semaine prochaine. RFI Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Il s'agit de plaintes en citation directe notifiées aux auteurs supposés de l'infraction. Selon l'avocat, il y a déjà un calendrier pour les audiences, maître Renaud Agbodjo.
Les plaintes ont été déjà délaissées depuis une semaine au moins. Les audiences sont prévues pour le 26 et le 28 mars de ce mois.
Les plaintes sont déposées à Natitengu, Djougou, Kandi, Abomey-Calavi, Porto Novo et Pobé. Le parti Les Démocrates affirme avoir été empêché dans ces villes de tenir des réunions Réunion, les leaders accusent les élus locaux et la police de les avoir dispersés. Ce samedi, le parti fait encore cas d'un nouvel épisode d'interdiction de rassemblement à Dassa. Il est demandé à tous les partis d'éviter les réunions en lieu ouvert, rappelle le porte-parole du gouvernement. Il poursuit, le week-end dernier, ils ont respecté la prescription et ont pu tenir leur réunion à Matéri. Puis il accuse, là où il y a eu incident, ils ont obtenu l'accord pour une réunion dans un domicile, puis ont voulu la déporter dans la rue. La police les a dispersés sans incident, a-t-il précisé. Plusieurs responsables des démocrates estiment que c'est une persécution, un ciblage. Faux, répond un membre de l'UPR, soutien de Patrice Talon, qui rapporte que son parti a essuyé récemment une interdiction de rassemblement à Abomey-Calavi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
RFI, l'actualité du continent en bref et un point sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a annoncé s'être retiré de la localité de Walikale Centre dans la province du Nord Kivu. Les rebelles parlent d'une volonté, je cite, de favoriser un climat propice au dialogue. Certains y voient l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de discussion, quand d'autres, plus prudents, estiment que c'est une manœuvre stratégique pour gagner du temps avant peut-être une autre tentative de progression, notamment vers Kisangani. Hier également, Thérèse Kayikwamba était devant la presse, la chef de la diplomatie congolaise, est revenue sur le choix de Kinshasa de directement négocier avec le groupe armé. La RDC a estimé qu'il était opportun de le faire si cela avait des répercussions rapides sur un cessez-le-feu, ajoutant que la priorité des autorités et du président Félix Tshisekedi qui est dit restait inchangé, à savoir préserver la vie des Congolais. Il y a environ une semaine, l'administration Trump décidait de couper les financements des médias américains à l'étranger. L'un des principaux canaux concernés, Voice of America, la voix de l'Amérique, suivi par plus de 300 millions de personnes. L'incertitude plane sur ces journalistes. Certains ont déjà reçu leur licenciement, d'autres sont placés en congé administratif et surtout, beaucoup sont réduits au silence par des clauses contractuelles ou craignent simplement des représailles s'ils parlent. Pour RFI, Christina Okello a tout de même réussi à recueillir quelques témoignages d'anonymes.
Nous savons que nous allons perdre nos emplois, mais nous devons rester silencieux. Témoignage amer d'un salarié de VOA placé en congé administratif, un statut qui l'empêche de s'exprimer publiquement. Un ancien cadre décrit des collègues désemparés, tournant en rond, sans savoir de quoi demain sera fait. Certains ont déjà reçu la notification des licenciements, d'autres explorent des recours légaux pour contester cette décision. Car derrière ces suppressions de postes, des familles restées au pays, des prêts en cours et l'angoisse d'un avenir incertain. Mais pour beaucoup, le dilemme reste le même, se taire et subir ou parler au risque de perdre définitivement leur emploi. VOA ne disparaîtra pas complètement, mais sa version future sera drastiquement réduite. La loi américaine interdit une fermeture totale sans l'aval du Congrès, mais selon plusieurs sources, le personnel et les opérations seront réduits au strict minimum. L'entreprise pourrait perdre jusqu'à 90% de ses effectifs, la rendant presque inopérante. Un vide dangereux avertit un salarié qui ne fera que renforcer ceux qui veulent contrôler l'information, selon lui.
Christina Okello, les Ivoiriens sont-ils les habitants les plus heureux d'Afrique de l'Ouest? En tout cas, c'est ce que laisse croire le classement mondial du bonheur que vient de dévoiler l'université britannique d'Oxford, puisque sur les 147 pays que compte le classement, la Côte d'Ivoire pointe au 98e rang, soit le plus haut parmi ceux de la sous-région. Benoît Almera s'est donc rendu à Blokos, dans le centre d'Abidjan, pour peut-être trouver les clés du bonheur à l'ivoirienne.
Pour cette commerçante, être heureuse, c'est être en couple.
C'est vous qui allez me rendre heureux parce que je suis célibataire.
Donc si je dois dire, c'est l'amour qui vous rend heureuse.
Mais si, c'est l'amour et c'est ton amour là que je veux.
Il y a ceux qui cherchent le bonheur spirituel.
Ce qui me rend heureux d'abord, c'est ma foi religieuse.
Sans oublier le matériel.
Et en second plan, à mon activité aussi qui me rend heureux.
Quand tu luttes et puis tu gagnes un peu quand même. C'est pas qu'on gagne gros, mais c'est un peu comme si tu as une petite récompense.
Et il y a la famille pour Gertrude.
Ce qui me rend heureux, c'est le temps que je passe avec mes enfants, avec mes proches.
Sans oublier la santé, le foot et la fête, Zié Ouattara est sociologue à l'université de Boaké. Le chercheur planche en ce moment sur un indice ivoirien du bien-être. Dans ses enquêtes, la solidarité occupe une place importante.
Ce qui est ressorti, c'est le fait de se sentir vraiment utile dans sa communauté. Savoir que je peux rendre service à mon voisin, on peut même s'emprunter des choses. C'est des éléments comme ça qui sont très structurants dans l'approche du bien-être au niveau des communautés.
Et en plus du vivre ensemble, le chercheur a identifié une douzaine de dimensions du bien-être. Prendre soin de ses proches est un moteur du bonheur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Le bien-être qui sera l'objet d'un colloque international du Centre de recherche pour le développement de l'Université de Boaké. Ce sera du 27 au 30 mai prochain. Et puis la fin de ce journal dans les salles obscures avec le film Aïcha qui nous entraîne en Tunisie. Le réalisateur Mehdi Barsaoui, lui-même tunisien, brosse le portrait d'une jeune fille qui saisit l'occasion d'une seconde vie après un accident. Elisabeth Le Quéré l'a vu pour nous.
Jusqu'où peut-on aller pour conquérir sa liberté ? Employée dans un hôtel, Aya travaille comme une bête de somme pour payer les dettes de sa famille qui veut lui faire épouser un riche divorcé. Seule survivante d'un accident de bus, elle saisit l'opportunité pour disparaître et se réinvente une nouvelle vie à Tunis sous un faux nom. Mais il suffit qu'un soir, un homme la reconnaisse en boîte de nuit et voilà Aya piégée face à d'autres formes d'oppression, de chantage et de corruption policière. Aïcha pose la question du courage, de la résilience et du désir d'indépendance d'une jeune femme, telle que le patriarcat s'acharne à les décourager. Avec ce nouveau long métrage, Mehdi Barsaoui dessine un portrait au scalpel de la société tunisienne en lui donnant la forme séduisante d'un thriller. Sans doute, le film se repose-t-il un peu trop sur la performance magnétique et le charisme de son actrice, Fatma Sfar, mais sa force n'en demeure pas moins réelle.
Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI, c'est à vous Julien Coquelroem.
Merci Nemo Rampis, très bonne journée.